Là, ils sont en embuscade, ils attendent que les gens essaient de traverser pour les choper.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est?
On se trouve à Aboudis, qui est la banlieue de Jérusalem.
Là, on a une vue absolument superbe sur Jérusalem derrière, il fait beau, tout est superbe. Sauf ce mur là de béton, ces plaques de béton avec du barbelé au-dessus, c'est sale, les ordures ne sont pas ramassées. Et donc ici tous les matins, là on est dans Jérusalem Est, donc, ok. Et là, il y a ce mur qui a été construit. Enfin, ce début de mur, hein, c'est vraiment le mur de Berlin. Hein, et on le voit qui fuit par là, enfin, qui continue par là. Et de ce côté-là, c'est quoi?
De ce côté, alors c'est très compliqué parce que à gauche de la route, c'est le territoire, c'est la Cisjordanie. À droite de la route, c'est Jérusalem. De l'autre côté du mur, c'est la même chose. C'est-à-dire, Jérusalem formellement continue aussi de l'autre côté du mur. Il coupe Jérusalem. Quand à droite de la route, quand on va de ce côté, c'est la Cisjordanie, et de ce côté, c'est Jérusalem. Donc, il y a des gens qui sont les résidents de Jérusalem, qui sont maintenant exclus de Jérusalem. Et il y a des gens qui sont pas des résidents de Jérusalem, qui se trouvent inclus dans le mur.
C'est incompréhensible.
Hein? It's unbelievable. C'est loyal man.
Expliquez-moi ce que vous faites là, qui vous êtes.
On est un groupe de femmes pour les droits de l'homme qui s'appelle Observatoire des barrages. Et on essaie de faire le minimum qu'on puisse faire. En essayant d'aider les gens. Et surtout, garantir que les soldats n'en font pas plus que ce que la loi leur permet de faire.
Ah, c'est vraiment incroyable cette vision-là. Il est 7h du matin. Il y a ces gens qui sont en train de passer à travers le mur. Il y a une gamine qui aide sa mère ou sa grand-mère à passer. Et cette femme est en train d'escalader. Ah oui, c'est une femme assez âgée déjà, qui est en train de passer. Et ils sont comme ça, des centaines à essayer de franchir ce mur tous les matins dans ce quartier de Jérusalem à Aboudis. Évidemment, c'est des scènes absolument terribles et humiliantes, surtout avant tout. Humiliante pour cette population palestinienne, exténuée, usée au bout de 3 ans d'intifada. Et heureusement, pour ne pas désespérer complètement, il y a ces deux femmes à 7h du matin, deux militantes de Mars on Watch, qui sont les militantes du barrage, qui sont là comme témoins, comme présence dissidente. Vous avez compris que nous revenons d'Israël, nous revenons des territoires, et nous revenons de ce mur, de chaque côté de ce mur où nous avons passé une semaine, et à partir du 8 octobre, la semaine prochaine, à partir de mercredi, Israël au pied du mur, Palestine, peau de chagrin, ce sera dans là-bas si j'y suis. Pendant notre absence, et bien évidemment, le répondeur de là-bas si j'y suis n'a pas cessé de tourner au 01 56 40 37 37, la preuve.
Je viens de voir l'émission 100 minutes pour convaincre, et je pense à Daniel qui est loin. Je vois José Bové qui s'est défendu vraiment très bien face à des pseudo-technocrates et qui a fait vraiment une... qui s'est vraiment bien défendu, quoi, parce que vraiment, quand... on voit un gars comme ça face à des gens qu'on invite et puis qui se défend avec la passion qu'il a et avec tout ce qu'il a dans les tripes. Je me dis que Daniel continue à te battre pour des gens comme ça, quoi. Parce que j'étais avec toi quand il était en prison, tout ça. Allez, merci beaucoup.
Salut Daniel, c'est Vivien de Toulouse. Je viens de voir José Bové sur France 2 à 100 minutes pour convaincre. Et j'ai franchement eu l'impression que c'était 100 minutes pour démonter une nouvelle forme de démocratie qui commençait à naître. Et ils ont pas réussi. Et ouais, parce que je crois qu'ils disaient vrai, tout simplement. Voilà. Merci à lui. Salut.
Entendu à la radio. Monsieur Bernard Kouchner a dit dans une radio: j'aurais dû dire à monsieur Bové d'aller arracher des plants de tabac. Bravo, monsieur Kouchner. Grâce à vous, le débat s'élève et progresse. Dans la radio qui cause, M. Kouchner, on dit que M. Bové est un démagogue. Un démagogue, c'est un politicien qui prend les citoyens pour des cons, qui les infantilise, qui les déresponsabilise, qui les punit et les récompense, qui les menace et qui les flatte tour à tour. Ce n'est pas ce que M. Beauvais a fait à la télé. Au contraire. Mais qu'est-ce qu'il a fait, M. Kouchner, à la radio, avec son baratin sur le tabac? Question que je me pose.
Voilà, c'est pour le jeune homme qui a fini de souffrir par la main de sa mère. Sa maman, qui je tiens à apporter quelques soutiens. Je pense, elle aura peut-être quelques ennuis. J'ai déjà pratiqué l'euthanasie passive. De la même façon qu'elle, on débranche un tuyau, c'est pas bien difficile, un tuyau qui tombe en pleine nuit. Enfin, c'est dans des centres hospitaliers comme à domicile. Quand il n'y a plus rien à faire, il y a au moins l'amour encore à donner. Personnellement, je remercie énormément M. Renfarin de continuer à piquer aux pauvres, à voler les pauvres pour donner aux riches. Je touche l'ASS. Bonne émission et bon voyage à M. Mermet.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Peut-être vous pensez que ça n'a pas de rapport avec les émissions qui ont été diffusées ces derniers temps, et pourtant j'ai l'impression, moi, que c'est un rapport avec toutes les émissions. Je voudrais dire mon admiration et ma compassion à Marie Imbert pour la décision, pour la courageuse décision qu'elle a eue envers son fils. Et dire aussi ma tristesse, parce que ça a dû être quelque chose de dramatique et pourtant d'essentiel dans leur vie. Je pense qu'encore une fois, c'est la désobéissance civile qui va peut-être permettre de faire avancer la société d'un grand pas. Et encore une fois, c'est la preuve que l'avenir appartient aux citoyens. Allez, bon courage, salut.
Oui, bonjour Monsieur Mermet. Écoutez, je vous téléphone au sujet de cette maman qui a eu le courage, parce que j'appelle ça un courage, d'aider à faire le grand voyage à son fils, voyez-vous. Moi, j'étais dans le même cas avec, c'était mon mari. De l'aspirine pouvait le tuer, monsieur. Et le médecin qui remplaçait notre médecin traitant, quand je lui ai demandé de faire quelque chose, il m'a répondu « Madame, vous voulez tuer votre mari ?» Bon, alors j'ai dit « Non, pas du tout. » Simplement qu'il arrête de souffrir. Donc je comprends, il faut que la médecine fasse quelque chose. Nous sommes très, 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 très en retard. Comme il y a un film, vous savez, qui s'appelle « On achève bien les chevaux et nous, on n'a même pas le courage. » C'est l'hypocrisie. On laisse crever et souffrir. Pourquoi ? S'il vous plaît, dites-le-moi. Eh bien, je peux vous dire que j'en ai bu des aspirines. J'ai pas bu et je l'ai regretté. Voilà, c'était il y a 23 ans. Et j'ai encore un peu de mal à en parler. Parce que si j'avais su qu'il souffrirait, je vous assure que je l'aurais fait. Et je viens soutenir cette dame, qu'elle n'ait pas de remords. Elle en aurait eu d'autres si elle l'avait pas fait. Comme moi, j'en ai eu pendant longtemps de ne pas l'avoir fait. Au revoir et merci pour vos émissions.
Beaucoup de messages de ce genre sur le répondeur de la basse, j'y suis, autour de cette affaire, cette nouvelle affaire d'euthanasie qui réveille à nouveau la question de l'euthanasie en France et comment finir, et comment finir dans la dignité, avec un minimum de dignité. Ce sera sans doute un grand bouleversement qui arrivera dans notre société, comme il y a 30 ans, l'avortement. C'est sans doute quelque chose de comparable. Mais c'est pas simple, ça va pas de soi. Après un siècle ou plus de génisme et de destruction décidée massivement, on peut comprendre les réticences profondes aussi qui s'opposent à des solutions comme celle-là. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Pour ma part, je vous dis tout de suite que je crois au droit de mourir dans la dignité. Je vous conseille d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle « La mort élégante », édité par cette association, le droit de mourir dans la dignité, qui est un très bel ensemble de textes autour de ce thème. À plusieurs reprises dans la basse, si j'y suis, on a abordé ce sujet. Et là, je vous propose dans une nouvelle diffusion d'une émission qui date d'octobre 1998, qu'on avait appelée avec Thierry Scharf, qui a fait le reportage, La fin de Jacob. C'est particulièrement beau, digne. Pourquoi ça va vraiment au cœur, au centre, dans l'épicentre de notre, tout simplement de notre condition humaine, avec cette phrase extraordinaire, ce lapsus extraordinaire de cet homme qui dit « J'ai avorté de mon père ». Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Suicide, mode d'emploi capitaliste. On gère la vie, on veut gérer la mort. C'est fatal, c'est normal. En période de crise, la mort est une valeur refuge. Les temps sont durs. Le marché de la mort est un marché porteur. Ce qui choque aujourd'hui, demain sera considéré comme normal. Un jour, on investira dans des entreprises spécialisées en euthanasie. S'offrir une mort plus ou moins heureuse en fonction de ses moyens, pourquoi pas ? Pour les pauvres, l'horreur. Le vrai bonheur, même mortel, ne se brade pas. Vivre pour la mort. Ce rêve de philosophe nazi, le capitalisme peut le réaliser un jour. Ce n'est que la morale qui freine cette inévitable évolution vers encore plus de totalitarisme bienveillant. L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Oui, bonjour, Daniel Mermet. Je suis parent d'un gamin handicapé et puis militant associatif, et je côtoie pas mal de familles qui se désespèrent pour l'avenir de leur gamin, des parents d'enfants autistes qui sont obligés d'envoyer leur gosse en Belgique pour qu'il soit pris en charge, des parents d'enfants polyhandicapés qui sont obligés d'arrêter de travailler parce qu'il n'y a aucun endroit pour accueillir leurs enfants, puis des jeunes schizophrènes qui désespèrent d'avoir une vie sociale à peu près ordinaire et qui font des tentatives de suicide. Il y a plein de handicapés ou de leurs familles qui ont des vraies raisons de désespérer. Alors il y a un peu plus d'un an, le président Chirac nous avait promis d'ouvrir un grand chantier pour améliorer le sort des personnes handicapées. Pour le moment, on n'a rien vu venir. Sur cette noble intention, ça n'a pas bougé. Et voilà qu'on parle d'un projet de loi pour légaliser l'euthanasie. D'un seul coup, je sais pas, ça m'a fait froid dans le dos. C'est ça le grand chantier du président ?
Je viens de regarder le JT de 13h sur la 2. J'ai vu Madame Imbert monter dans un car de police. Je suis révolté. France 2 est ignoble, j'écris à son directeur, je ne comprends plus, nous sommes dans un pays de merde.
Un petit message pour Daniel Mermet. Voilà, un petit texte, tout court. Faut-il vraiment la mort pour que le prix de la vie apparaisse ? Faut-il que je te perde pour savoir combien je t'aimais ? N'est-il pas temps d'introduire dans le quotidien une autre conscience, une autre manière d'être, une discipline tendre ? Rendre hommage à la vie. Chaque jour de neuf et jusqu'à la fin de nos jours. Voilà, c'était une petite parole de Christian Singer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Sa respiration s'est enfin arrêtée. Je me suis levé, je suis allé près de lui, je sais pas si je lui ai fermé les yeux, je sais pas s'ils étaient ouverts. Je sais en tout cas que j'ai touché son visage et puis j'ai pris sa main dans la mienne. Et puis, je sais pas combien de temps ça a duré, mais... moi, j'ai toujours très ouvertement dit, que ce soit à mes collègues au travail, que ce soit à mes amis, que ce soit publiquement, je ne me suis jamais caché. J'ai toujours dit, j'ai avorté mon père.
Non, vous avez fait un lapsus, là.
Oui, effectivement, j'ai euthanasié mon père. Oui.
Et vous arrivez à dire quand même que j'ai tué mon père ?
Oui.
J'étais tout à fait d'accord, hein, mais moi, j'ai pas voulu prendre la décision, moi. Mais les enfants l'ont fait, ils ont très, très, très bien fait. J'en profite des deux mains, mais moi, j'avais pas le cœur d'y aller. Mais... Non, je savais pas y aller.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, la fin de Jacobs.
Flight number 2, arriving from New York.
Les repas de fête, et ça, c'était mon père, et faire des grandes tables avec plein d'amis tout autour. On enlevait tous les meubles, on faisait une grande table. Il faisait des gâteaux. Les gâteaux qu'il a toujours fait pour les anniversaires des gosses à l'école. Bon, c'était bon papa. Enfin, pas bon papa gâteau, mais bon, au terme réel du mot, il faisait des gâteaux. Alors, il lui disait, moi, je veux un train, moi, je veux un bateau, moi, je veux ceci, moi, je veux... Et il faisait des gâteaux en forme de train, de bateau, pour emmener à l'école. Donc, ils étaient super fiers de leur grand-père. Et c'était... Bon, je dirais que mon père, dans la cuisine. Mon père a toujours aimé ça. Mon père, c'était un monsieur qui était fonctionnaire, qui s'est toujours occupé de sa famille, qui était un peu autoritaire sans l'être, c'est-à-dire c'était une pression morale. Il nous disait pas tu dois faire ci, tu dois faire là, mais il s'arrangeait pour qu'on fasse ce qu'il avait envie qu'on fasse. Bon, je l'appréciais, c'était un homme intelligent, c'était un homme sensible, tout en étant rustre, mais c'était quand même un homme sensible, puisque quand notre ami a perdu son mari et puis est décédé, ils ont quand même pris les deux enfants. Ça, c'est quand même quelque chose qui a été décidé avec ma mère. On s'est occupé, je dirais, tous ensemble de ces deux grandes filles. Enfin, c'était deux petites filles qui sont maintenant deux jeunes femmes, quoi.
Claudine, voilà, c'est Claudine, la fille de Monsieur Jacobs, donc, qui est institutrice à Bruxelles dans une école laïque. Et c'est important pour elle, c'est important parce que être laïque, c'est un trait du caractère un peu de cette famille. C'était en tout cas quelque chose d'important pour le papa, qui était un socialiste, disons, dans la version belge, et qui est devenu fonctionnaire pour échapper au STO, au service du travail obligatoire. Et il faut dire une chose avant d'écouter les témoignages de cette Claudine, la fille, de Paul, le fils, et de Georgette, l'épouse, que la famille Jacobs avait autrefois un ami, instituteur, qui est décédé, laissant au monde deux filles. Et quelque temps après sa mort, son épouse est morte, donc les deux filles étaient orphelines. Alors la famille Jacobs donc a adopté ces deux enfants qui ont grandi avec les deux autres enfants, avec Paul, Claudine, donc, et ces deux jeunes femmes aujourd'hui, à l'époque des fillettes, qui ont été adoptées. C'est quelque chose d'important pour cette famille. Donc, on écoute Claudine. Je vous rappelle que les faits remontent à 94-95. Hein, c'est il y a 4 ans, 5 ans. Comment les uns et les autres en parlent aujourd'hui, Claudine.
Ça s'est étalé vraiment fort sur 4-5 mois. Donc, il a développé un problème à la vésicule biliaire. Et à ce moment-là, il y avait un ami de mon frère qui était médecin à l'hôpital et qui a trouvé que mon père avait des réactions curieuses alors qu'il le connaissait depuis toujours, je dirais. Alors, il a alerté le médecin et un neurochirurgien est venu le voir. Et ils ont fait des tests et ils se sont aperçus qu'en dehors de son problème de vésicule, il avait une tumeur qui n'était pas cancéreuse, mais une tumeur qui compressait le cerveau, qui se trouvait entre le crâne et les méninges. Et donc, il a progressivement, mais très vite, perdu ses facultés.
Mentales.
Mentales, oui. Et ça s'est détérioré. Alors, ce neurochirurgien a accepté de l'opérer.
Il avait quel âge ?
Mon père, 66. Bon, c'était pas très vieux, je veux dire. Au moment où ce neurochirurgien, voulait discuter avec lui, mais il était plus, enfin, il voulait l'autorisation parce que c'est une opération importante avec des risques. Et il était plus vraiment capable de la donner. Donc, le médecin s'est bien rendu compte qu'il avait de grands moments d'absence. Il n'était pas encore complètement amnésique, mais il avait de très grands moments d'absence. C'est-à-dire que c'est mon frère qui parlait au médecin. Mais il ne parlait pas sans que je sois au courant. Donc, il est allé dire au médecin que s'il y avait le moindre problème au moment de l'opération, il fallait surtout pas ni réanimer, ni tenter l'impossible s'il y avait un accident. Il n'y a pas eu d'accident. Mais après, ça s'est terriblement détérioré. Ce n'est pas la faute du médecin, c'est lui. Ce cerveau s'est détérioré de plus en plus, donc il était amnésique, il était incontinent, on le nourrissait avec... une sonde, c'était incroyable. Enfin, c'était plus mon père, quoi. C'était quelque chose de très triste. Moi, j'étais le voir tous les jours, mon frère aussi. Je veux dire qu'il y avait plusieurs années qu'il ne l'avait plus vu, mais quand il a su qu'il était malade, pour soutenir ma mère, parce que elle a toujours une terrible admiration. Je ne dis pas qu'elle n'en a pas pour moi, c'est autre chose. Nous, on se voit tous les jours. Et quand c'est tous les jours, c'est du normal, c'est du naturel.
Vous habitez juste à côté l'un de l'autre, là, avec votre mère.
Et pour ma mère, je dirais que pour elle, moi, je suis sa suite, c'est normal. Tout ce que je fais, tout ce qui se passe chez nous, le rapport que j'ai avec elle est un rapport normal. Alors, disons que quand mon frère fait quelque chose, un petit peu moins maintenant, parce qu'elle est quand même... Enfin, on a mis les choses au point, elle et moi. Mais autrement, mon frère faisait quelque chose. C'était le Dieu qui avait débarqué, qui avait pris une décision, qui lui avait donné la main, qui l'avait réconforté, parce que... on est différents. Donc, il est beaucoup moins présent, mais il est beaucoup plus tendre. Bon, il va la prendre, il va lui parler, il va la tenir par le bras. Moi, je fais jamais ça, je la touche pas. Enfin, je la touche pas, on s'embrasse pour se dire bonjour, point. Mais je ne la touche jamais. On ne se touche pas.
Voilà comment parle Claudine, la fille de Monsieur Jacobs. Et c'est vrai que tout ça n'est pas simple. Ça n'allait pas de soi, ce qui s'est fait là. Comme l'avortement, quand la loi a été adoptée, ça n'allait pas de soi. On le sait maintenant, on sait bien que c'était nécessaire, bien évidemment. Il ne s'agit absolument pas de revenir sur ce qui a été adopté, qui était évidemment nécessaire. Mais on ne peut pas dire que ces choses-là vont d'elles-mêmes. Voilà ce que ça suscite toujours dans la conscience d'une famille.
Je jouais taxi pour ma mère. Donc j'allais entre l'heure du midi pendant 5 mois, j'ai pas mangé à midi. Parce que je quittais mon boulot, j'allais la chercher, je la déposais à l'hosto. Je voulais pas qu'elle monte toute seule. Donc je montais avec elle. Et puis elle passait l'après-midi avec mon père. Et je redescendais, je retournais travailler, j'allais la rechercher le soir. Donc je fais ça pendant 5 mois quand même, tous les jours. Et... moi, ça me pesait très fort parce que j'allais pas voir mon père, parce que c'était plus mon père. Donc, je me sentais très mal à cet endroit-là. J'y allais pour pas la laisser aller seule, pour pas qu'elle entre seule, parce qu'on savait encore, bon, ça pouvait encore être pire que ce qu'on avait déjà vu, si c'était possible. Et puis alors, en fait, il y avait plus de soins. À la fin, enfin, plus de soins, oui, les soins, mais les soins domestiques. Ce n'était plus, enfin, on ne soignait plus. Il n'y avait plus de médicaments, il n'y avait plus, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Donc, il y avait aussi un moment où il aurait dû quitter l'hôpital. Pour faire quoi? Pour aller où? Alors, ma mère avait pris, parce que, en fait, son mari, c'était, enfin, son mari, elle a toujours dit mon mari, son mari, complètement, diminuée, inconscient, ne la reconnaissant plus, elle allait passer tous les après-midi avec lui. Et quand on s'est dit qu'il fallait qu'il trouve une solution, sinon celle qu'on a trouvée, c'était aller dans une maison qui s'occupait de grabataires, de on ne sait pas très bien quoi, on n'a pas trouvé, on n'a même plus, pour finir, on n'a plus cherché. Mais elle imaginait aller habiter là avec lui. Alors, ça, on s'est dit, c'est pas possible, comment, parce que c'est plus lui, elle va. Enfin, on peut pas, l'abdégation jusqu'à ce point-là, c'est trop. Enfin, nous, on trouvait vraiment que c'était quand même, enfin, moi, j'imaginais pas ça, quoi. Et bon, mon frère est encore allé voir le médecin, mais c'est vrai qu'en Belgique, l'euthanasie est totalement interdite, hein, c'est un assassinat, hein. Donc, bon, un médecin, quand même, il doit vraiment être sûr que c'est un souhait, qu'il ne sera pas dénoncé, même s'il prend ses responsabilités. Malgré tout, il faudrait pas qu'on porte plainte après, parce qu'il serait rayé de l'ordre, il aurait de grosses difficultés, hein, bon. Donc, ça doit être, il doit quand même aussi être sûr que c'est sans issue. Parce que s'il y avait la moindre chance qu'il puisse se rétablir, ne fût-ce qu'un peu, Mais, je dirais que mon père même, bon, il n'y avait plus de chance qu'il se rétablisse, mais même un peu, je crois qu'il aurait jamais voulu ça, quoi.
Comment vous le savez, ça?
Mais parce que c'est quelque chose dont on a toujours parlé dans la famille, que personne, enfin bon, à partir du moment où on n'a plus une vie digne, une vie qui comporte ses joies et ses peines, mais quand même plus de joie que de peine, et qu'on n'est plus conscient de ce qui se passe, qu'on est une charge pour tout le monde, bon, il est bien évident que c'est quelque chose qui est commune à tous les membres de la famille. On ne veut pas être une charge, on ne veut pas vivre à tout prix. Vivre à tout prix, c'est quoi? Vivre si, enfin, pour nous, c'est plus vivre, ne plus être soi, ne plus profiter. Bon, être, bon, je sais pas, moi, une plante dans un fauteuil, ça vit pas, quoi. Même si on l'alimente, parce que je pense qu'il ne serait pas mort. Maintenant, peut-être bien, mais il n'y avait pas de mort immédiate prévue. Bon, les fonctions vitales, le foie, les reins, le cœur, les poumons, tout ça fonctionnait. Bon, parce qu'il aurait pu aussi mourir d'une crise cardiaque, mais ce cœur tenait. Ses poumons fonctionnaient, il n'a jamais eu de problème. Bon, il n'a jamais eu d'oxygène, il n'a jamais eu de renforcement cardiaque, enfin, tout ça fonctionnait. Donc, ça aurait pu durer encore, on ne sait pas très bien, mais ça aurait pu durer. Mais comme ça, pourquoi? C'était... Et un jour, on est retourné. Enfin, c'est-à-dire, c'est mon frère qui voyait le médecin. Je crois que le médecin préférait discuter. Enfin, moi, je n'avais pas très envie de lui parler non plus, je veux dire. Donc, c'est mon frère qui était le porte-parole et qui discutait et qui lui a posé plusieurs fois la question jusqu'au jour où il a dit, écoutez, je pense que si vous êtes d'accord, c'est peut-être le moment parce que il y aura jamais plus rien. Ils ont fait un dernier scanner du cerveau pour être sûr que, en fait, qu'il n'y ait plus de partie vivante dans le cerveau. Et il a proposé de l'euthanasier. Et là, on était à trois. Laurence n'est pas venue non plus. Il y avait Anne, mon frère et moi. Et ma mère qui savait très bien de quoi on allait parler, mais qui n'est jamais venue avec nous. Mais qui était d'accord.
Et
l'euthanasie, de nos jours, il faut savoir que les trois quarts des gens dans le pays décèdent à l'hôpital, abandonnés au système des soins, loin de leurs proches qui sont souvent exclus, ces gens en phase terminale, disons, des décisions médicales. Alors, bien sûr qu'en devenant acteur de son propre trépas, c'est un moyen de sublimer la peur de la mort, d'y échapper. On a toujours voulu échapper à la mort, nous qui sommes dans une durée, simplement, dans une durée finie, mais donc dans une durée par rapport à un temps dont nous ne savons rien. C'est nous qui avons inventé le temps, mais on sait bien qu'on est dans l'infini, et c'est toute l'articulation de l'humanité qui est là, dans la mort même. Raoul Weinegem dit, pour nous encourager, mais pas seulement bien sûr, que la vie épuise la mort. La mort est ce que la vie épuise. Mais la mort est aussi ce que la vie y puise. C'est à partir de là que tout se fait, un individu, une société, une civilisation, par les réponses qu'elle donne à cette énigme. Aujourd'hui, dans nos sociétés, l'euthanasie constitue une des réponses. Mais il n'y a pas si longtemps, la souffrance était la promesse d'un salut. Quand j'étais gamin, on discutait passionnément sur la nécessité pour nos mères à l'époque d'accoucher dans la douleur. Il fallait accoucher dans la douleur. Ça, c'était bon. Ça a été un grand débat. Et aujourd'hui, éliminer la souffrance est quelque chose qui ne va pas de soi dans nos sociétés, quand même largement, lourdement, diront certains, chrétiennes. Voilà Paul, donc, qui nous a écrit et c'est pas un témoignage qu'on est allé arracher à quelqu'un. Ce sont des gens qui voulaient témoigner. Donc je le rappelle, Paul Jacob, c'est professeur à l'Université libre de Bruxelles au service de génétique appliquée.
Je suis probablement dans la famille celui qui formule le plus les choses ou qui est le plus, je dirais peut-être celui qui ose dire les choses le premier, donc je pense que j'ai dû être le premier à en débattre d'une part avec le chirurgien et d'autre part avec les autres membres de la famille. Et puis nous nous sommes réunis à l'hôpital, pas les quatre enfants parce que l'une des sœurs n'a pas voulu être présente, mais elle a donné son avis. Mais elle n'a pas voulu être là au moment où on discutait de ça, elle trouvait ça trop dur. Et donc, en tout cas, les trois enfants et ma mère, et avec le chirurgien, et nous avons pris la décision à ce moment, enfin, nous avons entériné, je dirais, ou rendu parfaitement clair et tous ensemble la décision à ce moment-là, dans une pièce attenante à la chambre, à la salle des soins intensifs où il était. Non, il était dans une chambre à ce moment-là. Il n'était plus en soins intensifs. Voilà. Et alors on a décidé d'une date, et nous avons été deux, donc une de mes deux sœurs adoptives et moi, à souhaiter assumer pleinement la responsabilité de la chose, et donc à être présent quand ça se faisait. Donc on a décidé d'un jour, on s'est rendu à l'hôpital, et donc on lui a fait une injection de morphine, une fois, il en avait de toute façon pour la douleur depuis longtemps, mais de passer à une dose qui devait être euthanasiante à raison d'une injection par heure. Ça a duré 5 heures. Et je veux dire, ça n'a pas été du tout ce que j'attendais. À savoir que on raconte en général, on dit que c'est que les qui s'endorment paisiblement et que à un moment, ça s'arrête, et je dois dire que c'est pas en tout cas comme ça que moi je l'ai vécu. Bon, ça a été 5 heures d'une agonie que je trouvais assez épouvantable, et je trouve que là on a certainement des progrès à faire, parce que Depuis que ça s'est passé, j'ai entendu beaucoup d'autres gens qui ont assisté à des euthanasies et qui disent tous qu'effectivement, c'est pas au point, quoi. C'est... Donc, en l'occurrence, pour lui, ça a été 5 heures de râle avec très souvent des moments où on avait l'impression que c'était fini, quoi. Une respiration qui, effectivement, avait l'air de s'amenuiser et de pratiquement s'arrêter. Et puis, tout d'un coup... on dirait qu'il aspirait comme s'il luttait, quoi. C'est une impression, je ne sais pas ce que ça recouvre, mais l'impression, c'est qu'effectivement, il reprenait, sa respiration reprenait, et on était reparti pour tout un cycle. Et je dois dire, c'est... Bon, je... C'est pas moi qui fais les injections, parce que... Enfin, je ne sais pas, j'ai même le regret de ne pas avoir... Quand j'en parle, c'est moi qui ai euthanasié mon père, parce que je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, moi je ressens comme ça et j'ai même une espèce de regret de ne pas l'avoir fait vraiment moi-même. Je sais pas, difficile à expliquer pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Mon père m'a peut-être enseigné, il avait ça très très fort, un grand sens des responsabilités, mais je trouve qu'en tant que fils, c'était à moi de gérer ce problème. Et c'est je crois là un peu ma frustration de dire j'ai pas fait les injections moi-même. Je pense que vraiment c'était une espèce de devoir que je ressentais. D'assumer ça et c'est pas une chose qu'on peut déléguer à un tiers. Je trouve que c'est trop grave, trop important, trop personnel. Seul quelqu'un qui a une relation forte avec la personne, je trouve, moi en l'occurrence, son fils par rapport à lui, je trouve que c'était à moi de, j'ai envie de dire, de prendre soin de lui jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Et prendre soin de lui, c'était faire ça.
Une affaire, comme on le voit, morale, une affaire de réflexion, une affaire de choix de vie, tout ça ne va pas de soi, c'est partie des choses qui peut-être s'imposent comme des évidences. On parle du dernier tabou depuis... Que les sociétés existent, elles sont faites de tabous et on pense toujours qu'il y a encore un tabou à abolir pour progresser. Bien sûr qu'on ne fait que changer de tabou puisque les sociétés par définition en ont besoin. La question qui se pose là, c'est que le monsieur Jacobs a-t-il lui-même décidé de sa fin? Alors, la famille considère qu'à certains moments, il a souhaité. Il y avait donc une extrapolation à faire sur la philosophie du père par cette famille. Paul Jacobs, le fils qu'on vient d'entendre, Claudine auparavant, la fille qu'on vient d'entendre. Et voici comment Georgette, la maman et l'épouse donc du défunt, parlent.
Pour nous, c'est plus vivre, ne plus être soi, ne plus profiter, bon, être, bon, je sais pas, moi, une plante dans un fauteuil, ça vit pas, quoi. Moi, je trouve que c'était plus mon père. Moi, on a tué une petite plante qui était là, bon, qui vivait parce qu'elle respirait, quoi. Et qu'on la nourrissait. On l'aurait plus nourrie et elle mourait. Il a mangé une demi-tartine le jour où il a été opéré, et puis après, ça s'est dégradé. Hein. En soins intensifs, on n'a plus pu rien faire. Vous savez, on n'est plus arrivé à le réveiller, et puis il n'a plus parlé. Et un jour, quand le roi est mort, il a lu Boléro de Ravel. Alors je me suis dit, ben ça va s'arranger, parce que c'était Boléro de Ravel hein, qui était marqué à la TV. Il avait une TV dans sa chambre et il disait Boléro de Ravel. Alors je me suis dit, ça va s'arranger. Et ça, il y avait un assistant du médecin qui disait, ben oui, ça va peut-être s'arranger, mais ça s'est absolument pas arrangé. Ça a été une étincelle et puis ça a été tout. C'est vraiment très, très bizarre. Hein. On a été vraiment très, 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 très impressionnés tous deux. Et mon fils était un peu en guerre avec son papa. Et
il est rentré, il est venu tous les jours, pratiquement, de, quand même, de hâte, c'était pas à côté de la porte. Eh bien, et il a dit, ah, il est là. Il avait oublié qu'il était en guerre avec le fils, enfin, vous savez, c'était...
Pour vous, qu'est-ce qui fait que ça ne valait plus le coup de vivre? Qu'il fallait le faire arrêter de vivre?
Écoutez, il y avait quelqu'un dans le quartier à qui on a mis des lances, à une vieille personne, et il m'a dit, pour vivre comme ça, il vaut mieux être mort. Et c'était pire que ça. Alors j'ai dit au médecin, il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Il n'aurait... Et alors, une des filles que j'ai élevées, parce que j'ai élevé deux enfants après des amis qui sont morts, et là, il y a une des filles, celle qui aimait ça d'ailleurs, qui est pédiatre, a marié un Marocain. Et lui, il a été... Il a dit, vous n'avez pas le droit de choisir pour quelqu'un. Mais quand quelqu'un n'a plus sa tête et qu'on se rend compte qu'il n'aurait pas voulu vivre comme il vivait, je trouve qu'on a le droit de faire ça. Hein? On a le droit, parce qu'il n'y a pas de raison quand même de faire vivre quelqu'un qui ne veut plus vivre comme ça. Hein? Il ne voulait pas. Mais on trouvait que le médecin avait attendu très longtemps. On a encore donné du sang. On se disait, mais est-ce qu'ils sont fous d'encore donner du sang à un malade comme ça qui n'allait plus? Je me suis rendu compte tout de suite des gens soins intensifs qui n'allaient pas se remettre. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça va pas s'arranger. S'ils pouvaient s'endormir et ne pas se réveiller, je les souhaitais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'on le nourrissait par le nez. Et il le retirait, et bon, c'était vraiment pénible. Une fois qu'il a été opéré du cerveau, je me suis dit, il va plus se remettre. Et je souhaitais vraiment qu'il s'endorme et qu'il ne se réveille plus. Quand quelqu'un n'a plus sa tête et qu'on se rend compte qu'il n'aurait pas voulu vivre comme il vivait, je trouve qu'on a le droit de faire ça. Hein? On a le droit, parce qu'il n'y a pas de raison quand même de faire vivre quelqu'un qui ne veut plus vivre comme ça. Hein?
Ben, il y a quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, qui quand même, bon, c'est... J'ai une relation conflictuelle à l'adolescence avec mon père, mais j'ai eu une relation extrêmement forte pendant toute ma petite enfance. Mon père était fonctionnaire, mais il était extrêmement bricoleur. Il travaillait sur la table de la cuisine, il a fait des meubles entiers sur la table de la cuisine dans le HLM où on habitait. J'ai passé des centaines, des milliers d'heures assis devant lui à le regarder travailler. Je veux dire, bon, il montait le vélo sur la table de la cuisine, il démontait, il remontait, il graissait, il huilait. Je veux dire, il faisait tout. Et moi, souvent les gens me disent, où tu as appris ceci ou cela. Ben, j'ai appris, j'ai regardé, j'ai passé des milliers d'heures à regarder mon père faire des tas de choses. Je crois que la première fois que j'ai pris un ciseau à bois en main, ben, je savais comment il fallait le tenir sans avoir l'impression d'avoir jamais appris. Oui, je crois que c'est quelque chose de tellement personnel et c'est ce qui change le sens, je pense. C'est qu'effectivement, peut-être que quelqu'un d'extérieur peut se dire « j'ai tué quelqu'un ». Quelqu'un qui voit ça de l'intérieur d'une relation forte se dit « j'ai sauvé quelqu'un ».
Filiation, Paul Jacobs parle de son père, les relations qu'il a eues avec lui jadis, mais il y a les petits-enfants aussi. L'histoire continue, Claudine, la fille, institutrice, laïque, je le rappelle, important, très important pour ces gens-là, a elle-même des enfants. Comment ces enfants, ces petits-enfants, donc du défunt, ont appris la nouvelle?
Mes enfants le savaient. « Il le savait, disons que j'étais allé chercher à l'arrêt de bus quand il rentrait. Pour leur dire, pour pas le dire devant tout le monde. J'étais les attendre à l'arrêt de bus. Enfin, c'était pas... Je veux dire, c'était pas une surprise, quoi, mais... Mes enfants étaient tristes. Enfin... Enfin, pour une maman, annoncer quelque chose qui fait de la peine à ses enfants, c'est difficile. Plus difficile que pour soi. Parce qu'ils étaient petits et je crois que ça leur fait... Il y a eu ça trois fois avec des gens auxquels ils étaient très proches. Il y a eu mon oncle. Quand mon père est mort et quand ma tante est morte. Qui était leur... Leur mémé, qu'ils adoraient aussi. Et puis bon, elle s'est pas réveillée un matin. Bon, 85 ans, c'est super. Hein. Je veux dire que c'est quelque chose que tout le monde pourrait espérer, mais l'annoncer aux enfants, c'était pas prévu, quoi. Ils avaient été tous dîner le mercredi. Et puis le jeudi matin aussi, ça doit être les jours. Le jeudi matin, le dire à ses enfants, c'est difficile.
C'est venu des semaines plus tard, je crois. Pourtant, je me souviens, mais certainement pas tout au début, non. C'est plus tard que c'est venu.
Les cauchemars.
Oui. Je me souviens plus beaucoup, mais je me souviens d'un, par exemple, où il y avait dans le jardin une espèce de pelle mécanique qui creusait, et dans mon rêve, les gens cherchaient un cadavre. Et je crois que j'étais inquiet à l'idée qu'ils le trouvent. Donc j'avais une certaine angoisse, il creusait manifestement, il cherchait un cadavre, donc j'avais tué quelqu'un, il cherchait la preuve, quoi. Et donc là, il est clair qu'il y avait une forme de sentiment de culpabilité ou d'avoir effectivement tué quelqu'un, mais sentiment que j'ai jamais eu au niveau conscient, au contraire. Mais manifestement, malgré tout, quelque part dans mon inconscient, il y avait une autre forme de sentiment, puisque j'ai fait ce genre de rêve.
Derrière ça, j'ai insisté à plusieurs reprises, et la famille Jacobs a insisté sur le côté laïque du papa et de même de leurs convictions de libre penseur. Derrière ça, bien évidemment, il y a l'Église catholique qui s'oppose de toute sa force, bien sûr, à l'euthanasie comme elle s'oppose à l'avortement. Mais ça, c'est presque des affaires d'idées, de débats. Ça fait débat, quoi. Là, c'est des gens, aujourd'hui, avec leurs mots d'aujourd'hui, 4 ans après cette euthanasie.
Tous les médecins le font, toutes les infirmières le font. Je veux dire, c'est beaucoup plus répandu qu'on imagine. Il n'y a aucune raison que ces gens vivent dans la crainte. Je connais quelqu'un qui a euthanasié son père tout récemment, et je sais qu'il disait à sa mère juste après, qu'est-ce qu'il va pas y avoir une autopsie? Est-ce qu'on risque pas de s'en apercevoir? Qu'est-ce qui risque de m'arriver? Donc voilà, un homme d'une 50aine d'années qui avait peur des conséquences légales de l'autopsie qu'il avait pratiquée sur son père à la demande de son père. Ça, il n'y a pas de raison que ça continue, ça doit s'arrêter. Il faut effectivement qu'il... Bon, c'est pas facile de légiférer dans ce domaine, mais se voiler la face, ce n'est pas une solution.
C'est pas une solution, et tout le débat est là aujourd'hui. Je vous rappelle que 80% des Français sont favorables à une loi sur l'euthanasie. On ne sait pas quelle forme exactement pourrait avoir cette loi, ce qu'il faudra empêcher, qui décidera, etc. Mais restons encore avec cette famille, avec surtout avec la femme, l'épouse, la maman de Jacobs.
Il ne savait pas que j'étais sa femme. Parce que un jour, il a demandé ce que je venais faire, tant bien que mal, vous savez. Eh bien, je dis, je suis ta femme et je t'aime. Et il a fait comme ça. Donc, il ne se rendait même pas compte. Et je me disais toujours, s'il avait un moment de lucidité, il faut qu'il me voie. Parce que c'était pas un homme tendre, mais je crois qu'il était très attaché à sa famille. Avec ma fille, il était plus tendre, mais pas avec sa femme. Et je crois qu'il était très attaché à toute sa famille.
Pour finir, le médecin disait maintenant il souffre parce que le nerf sciatique avait pris dans ses escarres. Et j'ai eu l'impression, à un moment donné, il tremblait comme ça. Et alors, je me suis dit, maintenant, il est grand temps d'arrêter cette histoire, parce que il n'aurait pas voulu vivre. Moi, je regrettais qu'on ne l'avait pas fait plus tôt. Pas pour moi, hein, mais pour lui. Je crois que lui ne voulait pas vivre. D'ailleurs, moi non plus. Si un jour, je suis diminuée, moi, je trouve qu'il faut le faire. Il faut quand même laisser mourir les gens dignement et pas comme des... Il était vraiment devenu un enfant comme ça. Il était couché sur mon épaule, vraiment comme un malheureux. Non, je trouve qu'il fallait le faire au moins 3 mois plus tôt. Au moins 3 mois. Mais vous savez, les médecins, ils sont quand même un petit peu... Ils ont un peu des remords de faire ce genre d'histoire, mais je crois que... Et par exemple, il y a un hôpital catholique ici tout près. Là, ils ne le font jamais. Et quand quelqu'un devient vraiment... qui voient que c'est la fin, ils les envoient ailleurs pour les laisser mourir ailleurs parce qu'eux ne prennent jamais la décision d'interrompre. Oui, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut... Et moi, j'avais fait mon deuil 5 mois et demi avant parce que je me suis dit, ça ne va pas. Il a fait une flébite et puis il a fait ciel. Il y avait toujours quelque chose qui se rajoutait. Et je dis, quand il est mort, je me suis dit... J'étais plus malheureuse pendant les 5 mois et demi qu'après sa mort. Parce que je disais, maintenant, il souffre plus, c'est fini. Et j'ai senti le vide. Mais je ne peux pas dire que je me suis ennuyée une fois. Et quand on a des gosses, on se sent quand même beaucoup moins seul. Je viens manger le dimanche midi chez ma fille. Je reste une heure et demie, je pars, hein. Je sais pas. Mais je sais que si j'ai le café, je peux une fois venir. Vous voyez? Mon beau-fils travaille à 3h30 jusqu'à 10h30. Donc l'après-midi, ma fille est seule. Je peux une fois venir si j'ai envie, enfin. Et le mercredi, ils viennent manger chez moi. Et le dimanche, moi, je viens manger ici.
Moi, j'ai toujours très ouvertement dit, que ce soit à mes collègues au travail, que ce soit à mes amis, que ce soit... publiquement, je ne me suis jamais caché, j'ai toujours dit, j'ai avorté mon père.
Non, vous avez fait la puce, là.
Oui, effectivement, j'ai euthanasié mon père.
Merci à la famille Jacobs. C'était une rediffusion d'une émission du 7 octobre 1999 et c'était un reportage de Thierry Scharf, technique aujourd'hui Stéphane Corridin et Benoît Gaspard, assistante Anne de Giafferi. Le répondeur, c'est Christophe Humbert, le numéro, vous le connaissez par cœur, c'est 01 56 40 37 37, Musique Koy Nguyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.